RFI 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou sont visiblement d'accord sur la nécessité d'un dialogue national. La République démocratique du Congo à la une ce matin, après la rencontre avant-hier entre le président et l'opposant. Cela va-t-il relancer l'initiative en ce sens déjà des religieux catholiques et protestants? Correspondance à Kinshasa dans un instant. Dans ce journal également, la Centrafrique, où la société civile craint que les élections locales ne soient encore une fois repoussées. On les attend depuis 40 ans. Le Mali, d'où Wagner annonce son départ, mais cela ne met pas fin pour autant à la présence de paramilitaires russes dans le pays. Et puis notre dossier consacré ce matin à ce que l'on mange lors de la Tabaski, la grande fête musulmane hier ou aujourd'hui selon les pays. Le mouton sacrificiel bien sûr, mais aussi parfois du cabri ou du bœuf. Et quels accompagnements? Illustration dans quelques minutes au Sénégal. L'initiative des religieux catholiques et protestants congolais a-t-elle de nouveau le vent en poupe en RDC après la rencontre avant-hier inédite depuis 2018 entre le président Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayoulou, rencontre demandée par Martin Fayoulou qui entendait notamment plaider pour un dialogue national pour tenter de démêler la situation dans l'est du pays, un dialogue national comme celui que les églises catholiques et protestantes appellent de leurs vœux et avaient même commencé à préparer. À Kinshasa, Paulina Zidi.
Le 17 mai dernier, lors d'une déclaration à la presse, l'abbé Donatien Tcholet, secrétaire de la conférence épiscopale, confiait que les deux églises avaient terminé leur rapport et qu'elles attendaient de le présenter au chef de l'État depuis plus de nouvelles. Selon ses dires, c'est ce qui a poussé Martin Fayoulou à rencontrer le président. Selon nos informations, une réunion entre les religieux et la présidence pourrait désormais avoir lieu la semaine du 16 juin pour évoquer ce pacte social, un projet soutenu par une grande partie de l'opposition qui appelle à l'organisation de ce dialogue sous l'égide des églises accompagné de la médiation togolaise. Cela pourrait se faire dès le mois de juillet, avance plein d'optimisme un fervent partisan de l'initiative. Dans le camp du pouvoir, les avis sont plus divisés. Si certains cadres de l'Union sacrée sont résolument pour, comme Vital Kamerhe ou Modeste Bahati, d'autres émettent de sérieuses réserves, notamment du côté de l'UDPS. Et il y a aussi les réticences de la présidence que les religieux auront le défi de convaincre s'ils veulent mener à bien leur projet. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
La RDC ou la prochaine élection présidentielle est prévue en 2028, échéance beaucoup plus proche à la fin de cette année 2025 pour la Centrafrique. Et avant cela, Bangui est censé organiser des élections locales, les premières depuis près de 40 ans. Normalement, ce devrait être pour le 31 août, mais les organisations de la société civile qui suivent le processus voient s'accumuler les mauvais signaux et craignent un report supplémentaire. François Mazet.
Selon le chronogramme des élections, la liste électorale définitive et le décret de convocation des électeurs auraient déjà dû être publiés. Ce n'est pas le cas, déplore le réseau Arc-en-Ciel, regroupant 15 des principales organisations de la société civile centrafricaine. Joseph Bindoumi est le chef de la mission d'observation électorale de cette plateforme.
Nous avons annoncé les élections locales depuis 4 ans et à chaque fois, nous avons mis ces élections locales-là de côté. Nous avons organisé le référendum, puis nous continuons de fermer les yeux de ce côté-là, alors que nommer les membres des communes par décret ne nous donne pas de signe d'un État qui avance vers un processus où la parole est au peuple. Il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté.
Le 17 mai, l'Assemblée a voté une dérogation au code électoral. Les autorités comptent impérativement organiser la présidentielle et les législatives en toute fin d'année. Alors les élections locales peuvent-elles être couplées à ces scrutins? Ce serait une grosse erreur, selon Joseph Bindoumi.
Non, ça ne peut pas marcher parce que vous savez que dans ces pays qui déjà souffraient lorsqu'il n'y avait que deux élections à organiser à la fois, nous sommes certains que si on prenait le risque, nous aboutirions à des élections soit bâclées, soit dans un cafouillage qui ne nous ferait pas rendre crédibles les résultats qui sortiront des urnes.
Le réseau Arc-en-Ciel demande au gouvernement et à l'autorité nationale des élections de tout mettre en œuvre pour éviter un report. Ni l'un ni l'autre n'ont souhaité répondre vendredi à ces inquiétudes.
La Centrafrique qui, comme le Mali, fait appel à des mercenaires russes en soutien de son armée nationale. Et au Mali, cette présence change de visage. Exit Wagner après 3 ans et demi de présence. Place à Africa Corps, un autre groupe paramilitaires, plus liés au pouvoir russe. Précision et explication avec Serge Daniel.
À Bamako, dans les milieux officiels, aucune des sources contactées par nos soins ne confirme ou n'affirme le départ annoncé des mercenaires russes du groupe Wagner. On le sait, la junte malienne a toujours nié la présence de ces mercenaires sur son territoire, préférant le terme de présence d'instructeurs russes. Côté Wagner, le départ du Mali de ses troupes est annoncé après un peu plus de 3 ans de présence. La relève sera assurée par une autre structure, Africa Corps. C'est une organisation également paramilitaire russe, assurant en Afrique la défense des intérêts extérieurs de la Russie. Composée d'ex-Wagner et surtout de nouvelles recrues, Africa Corps est plutôt étroitement contrôlée par le ministère russe de la Défense. C'est un peu un changement quand on se souvient que Wagner était fermement dirigé par Evgeny Prigogine, certes proche du Kremlin, mais forte tête avant sa mort dans un accident d'avion en 2023. En quittant le Mali, Wagner dresse un bilan très élogieux de sa présence. Autre son de cloche, si la présence de Wagner a permis de reprendre des mains des rebelles à la ville de Kidal, la sécurité n'est pas revenue sur une grande partie du territoire national. En plus, Wagner a été accusé des actions sur les populations civiles par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme.
Serge Daniel, dans l'actualité ce matin également, le Togo à Lomé. Un important dispositif de sécurité était déployé hier à l'occasion de rares manifestations contre le régime de Fornia Simbé. Plusieurs journalistes ont été brièvement interpellés et contraints d'effacer les images qu'ils avaient tournées. Le Togo, où l'avocat du rappeur Amron, artiste connu pour ses positions critiques, affirme qu'il a été emmené en hôpital psychiatrique après son arrestation le 26 mai dernier. Depuis, Amron est apparu dans une vidéo s'excusant, vidéo réalisée sous contrainte, estime son avocat. Hier dans certains pays, aujourd'hui dans d'autres, notre dossier s'intéresse ce matin à la Tabaski, la grande fête des musulmans, fête du sacrifice du mouton. Et l'on se penche ce matin justement sur ce qui est mangé à cette occasion. Traditionnellement donc du mouton, mais vous verrez que ce n'est pas le cas partout. Du mouton que l'on accompagne par exemple au Sénégal, de pommes de terre et d'oignons, deux cultures en plein boom dans le pays. Penaï Traoré.
Les Sénégalais sont de grands consommateurs d'oignons et de pommes de terre en temps normal dans des plats comme le yassa, le tiep, les frites et pommes de terre sautées et autres marinades. Mais en période de fête, surtout pour l'Aïd, cette consommation bondit. Kayire Diong est conseillère agricole et rurale.
La consommation double ou bien même ça se multiplie par 3 durant ces périodes de fête, surtout la fête de Tabaski. Toutes les ménages font la cuisine à base uniquement d'oignons pour accompagner la viande. En même temps aussi de la pomme de terre, consommée uniquement en friture.
Il y a quelques jours, les acteurs de la filière oignon avaient rassuré les consommateurs à l'approche de l'Aïd sur la disponibilité et la baisse des prix sur le marché du fait de la surproduction cette année. Aline Diaye, président de l'interprofession de la filière oignon à Thiès.
Les sacs de 25 kg abrent à 6 000 francs et 6 250. Les prix détail à 300, maximum 350 francs actuellement. Cette année, il y a beaucoup de production. Les demandes de Tabaski sont très fortes. Chaque maison qui achète un sac pomme de terre, un sac de l'oignon, environ. Mais c'est les grandes familles qui achètent deux sacs pomme de terre et deux sacs d'oignon, seulement pour la Tabaski.
Pour permettre aux producteurs indépendants d'écouler leur stock de pommes de terre et d'oignons, l'Agence de régulation des marchés, l'ARM, a annoncé la suspension temporaire de leur commercialisation par les entreprises de l'agro-business.
Et qui dit Tabaski dit normalement sacrifice de mouton, censé rappeler la vie du prophète Abraham ou Ibrahim, acceptant de donner la vie de son fils. Aux Comores, la réalité est différente, on y préfère souvent le cabri ou la vache. Les pratiques s'adaptent aux réalités locales, explique le sociologue Msa Ali Jamal.
Il y a une forme de négociation religieuse avec les spécificités locales, les contraintes socio-économiques. Il n'y a pas un respect rigoureux de la pratique du sacrifice, mais plutôt il y a une tendance à chercher à préserver le sens tout en appliquant d'une manière différente que les autres pays. Par exemple, pour les religieux, l'essentiel ce n'est pas de respecter les principes à la lettre, mais de préserver le sens. Il y a deux outils théoriques qui légitiment cet ajustement. C'est le concept de la facilité. La religion est une facilité. Deuxième outil théorique, c'est l'intention sincère. Et ces deux outils offrent une légitimité aux fidèles, justement, d'adapter l'usage de l'animal selon la disponibilité locale. Donc, au Maroc, il n'y a pas l'élevage de moutons, mais plutôt des cabris et de bœuf. Les gens se regroupent en famille pour mutualiser les coûts. Ils achètent un bœuf. Toujours là, il y a l'esprit de respecter le principe religieux, mais en l'adaptant.
Le sociologue comorien Msa Ali Djamal. À Madagascar, c'est une semaine de spectacle pour enfants qui s'achève aujourd'hui à l'Institut français à Antananarivo. Une telle offre est rare sur la Grande Île et notre correspondante Sarah Teto s'est rendue à la représentation de la pièce de théâtre « L'enfant et le tambour de la nuit ».
C'est l'histoire d'un garçon qui sort au coucher du soleil car il entend un bruit.
Un bruit que d'autres n'entendent pas.
Le bruit est-il là ?
L'histoire d'une quête de sons, des sons qui l'emmènent à vivre sa vie, à explorer le tambour.
Hélas, rien de rien.
Sur scène, Fel Razafiarson, la comédienne, arrive à capter l'attention même des plus petits.
Quand j'avais demandé à Jean-Luc d'écrire un texte pour du jeune public, la première question qu'il a posée, c'est « Tu veux parler de quoi ?» Et j'ai dit « J'ai envie de faire rêver les enfants le temps du spectacle ». C'est important des temps dédiés à l'enfance comme ça, parce que je trouve que par les temps qui courent, les enfants n'ont pas forcément beaucoup d'occasions d'être des enfants.
À l'issue de la représentation, le jeune public pose librement ses questions aux deux artistes.
Dites-moi, comment vous avez réussi à faire le salto arrière ? Est-ce que vous êtes styliste ?
Comment vous faites pour vous rappeler de votre texte ?
Je trouve que ça montre aussi, qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer des gens comme nous. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre histoire ? C'est ça qui est important aussi, que l'art vivant leur soit aussi accessible.
Pour la moitié du public, assister à une pièce de théâtre était une grande première. Comme un premier pas pour habituer et donner le goût à cette jeunesse de devenir le spectateur de théâtre de demain. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
En fin du football, c'était un match amical, mais le Gabon et le Niger se sont rendus coup pour coup hier à Casablanca au Maroc. Un scénario plein de rebondissements entre les Panthères et le MENA national. Et finalement, ce sont les Nigériens qui s'imposent 4-3. Sur place, François Mferkataji.
Lorsque les Panthères du Gabon encaissent leur 4e but de la soirée à la 66e, le millier de supporters gabonais présents à Casablanca ne peut retenir sa colère contre le jeune gardien gabonais Noubi Fotso, jugé fautif.
On voit la trajectoire du gardien, son placement, mais apparemment il comprend pas, il bouge les oreilles et ça paye cash.
Là, 4 ans, ça fait mal.
C'est vache, ça fait mal. Ça fait mal, on est venu en espérant gagner, pas pour perdre.
Bien que le Niger a su creuser l'écart, les Gabonais n'ont jamais abandonné. Et le match s'emballe quand le défenseur nigérien Kata Koré est sanctionné d'un carton rouge. Gaylor Kanga, l'attaquant gabonais de l'Étoile Rouge de Belgrade, transforme immédiatement le coup franc direct d'une frappe enroulée qui finit au fond des filets. 4-3, les Gabonais pousseront jusqu'à la dernière seconde. Insuffisant, le capitaine nigérien et buteur Youssouf Oumarou est satisfait.
Ouais, ils ont des attaquants très rapides. Vous savez, le football gabonais est vraiment physique. On s'y attendait. Donc après, quand on menait 4-1, comme je l'ai dit, on n'a pas pu bien resserrer les lignes. On s'est fait contrer sur des erreurs de marquage. Et bien voilà, c'est ça aussi le football. Ils ont fait 3 erreurs. On a eu la chance de marquer très tôt. Et on a gagné le match, alhamdoulilah.
Le Gabon a su obtenir un ticket pour la prochaine CAN qui se tiendra au Maroc, contrairement au Niger qui a manqué le coche pour un petit point. François Mferkataji, Casablanca, RFI.
Et parmi les autres scores d'hier, victoire 2-0 du Maroc sur la Tunisie, victoire aussi du Cameroun 3-0 contre l'Ouganda. Quant au Sénégal, il jouait à Dublin 1-1 contre l'Irlande et affrontera mardi l'Angleterre à Nottingham où il est désormais 7h44. Et vous êtes avec Julien Coquelroem pour la suite des RFI Matin.